Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. Des chars allemands nous menacent. Vladimir Poutine a célébré hier les 80 ans de la victoire de Stalingrad en faisant le parallèle avec cette guerre en Ukraine. L'Ukraine qui reçoit aujourd'hui en grande pompe à Kiev la commission de Bruxelles en vue d'une future intégration à l'Union européenne. L'Info C'est clair qui est intitulé « Poutine, des chars allemands nous menacent ». Nos invités, Rim Montaz, vous êtes chercheuse en politique étrangère et de défense à l'IISS. Général Vincent Desportes, vous avez été directeur de l'école de guerre. Vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et votre livre « Devenez leader », c'est aux éditions Odile Jacob. Patrick Martin-Jeunier, vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Votre livre « L'Europe a-t-elle un avenir ?» qui est réédité aux éditions Studirama. Merci de participer à cette émission en direct. Donc la Russie a célébré hier en grande pompe les 80 ans de la victoire de Stalingrad. Vladimir Poutine ne manque pas de faire le parallèle avec la guerre en Ukraine. Retour sur cette journée et ses commémorations avec Luc Lacroix.
C'est une grande parade militaire pour la plus grande des batailles dans le cœur des Russes. Il y a tout juste 80 ans, les Soviétiques emportaient la bataille de Stalingrad. Un tournant dans la guerre contre l'Allemagne nazie, un immense sacrifice, 1 million de morts côté soviétique. Signe de l'importance des commémorations, Vladimir Poutine est venu. Il s'est recueilli seul, juste avant de convoquer cette histoire héroïque pour essayer de légitimer son offensive en Ukraine.
C'est incroyable, mais c'est un fait. On nous menace de nouveau avec des chars allemands, les Léopards. Ils s'apprêtent de nouveau à faire la guerre à la Russie sur la terre ukrainienne avec les successeurs d'Hitler.
Les mots et la démonstration de force dans la parade militaire aux chars d'époque succèdent des modèles combattants en ce moment en Ukraine. Ça ne choque personne dans la foule. Beaucoup adhèrent au discours officiel d'une Russie menacée.
Il faut enterrer le fascisme, définitivement, pour qu'il ne ressorte plus de terre.
Le nationalisme, mourir pour la patrie, des valeurs qui parlent à ces Russes.
Dieu est avec la Russie, la victoire sera à nous. Ici, il y a la foi, il y a la force, ici en Russie.
Aucun doute, puisque l'homme russe a un caractère en acier trempé et ne change pas de position. Personne d'autre n'a ça dans le monde.
Une Russie qui veut montrer sa force, mais isolée. Aucun pays occidental n'a envoyé de délégation officielle. Quelques Français sont venus. Le petit-fils du général de Gaulle est ce Français qui a ses entrées au Kremlin, mais il ne représente pas la France.
Vous allez probablement être utilisé par les Russes qui vont dire « Regardez, il y a des Français qui nous soutiennent, qui soutiennent notre offensive en Ukraine ».
Malgré la situation actuelle qui est très compliquée, on essaie quand même de garder un contact au moins sur le plan historique. Et là, c'est les 80 ans de la bataille de Stalingrad.
Les Russes sont allés jusqu'à inaugurer ce buste de Staline hier. C'est rare en Russie parce que Staline, il incarne la victoire soviétique lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi un régime de terreur qui a fait des millions de victimes.
Rim Montaz, je répète cette phrase qu'a prononcée hier Vladimir Poutine. Des chars allemands Léopards sur lesquels sont dessinées des croix nous menacent à nouveau. On a clairement un Vladimir Poutine qui, pour ressouder son peuple, nous rejoue la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qui se trame ?
Oui, alors ça, c'est un procédé qu'il utilise depuis plusieurs années. Il réécrit l'histoire, il essaye de réinsuffler de la gloire dans l'histoire récente de la Russie, parce que, on le sait tous, Vladimir Poutine n'est pas fan de ce qui s'est passé après la fin de l'Union soviétique, et donc il essaye de réécrire l'histoire. Mais surtout, il est dans le mensonge. En réalité, les chars allemands Léopard qui vont être envoyés en Ukraine ne sont pas envoyés pour menacer la Russie et ne menacent pas la Russie. Je parle bien du territoire russe dans les frontières internationalement reconnues. Personne ne fait la guerre à la Russie. C'est la Russie qui fait la guerre à un pays souverain qui est l'Ukraine.
Et néanmoins, Patrick Martin-Jeunier, on voit bien, alors évidemment, le public qui était là était probablement acquis à la cause nationaliste, mais on a un peuple qui semble adhérer à cette idée que la civilisation russe est attaquée et que l'Ouest, l'Occident, avec son modèle, qu'on peut juger décadent, parce que c'est le discours en tous les cas de Vladimir Poutine, veut s'imposer à la Russie qui doit résister. Le peuple a l'air d'adhérer à cette bataille de civilisation qu'essaye de vendre Vladimir Poutine.
C'est cela qui est très inquiétant, parce qu'on a souvent dit qu'il va y avoir un mouvement de protestation, il va y avoir de la résistance de la part du peuple russe. Et en réalité, ils sont tellement sous la propagande, tellement sous la surveillance d'un régime policier dictatorial, il faut bien dire ce qui est, que tous les opposants sont arrêtés. On avait même dit, vous savez, que les maires de soldats qui avaient été tués pourraient constituer un mouvement de protestation, de contestation. Et au final, on s'aperçoit que cette population est complètement embrigadée et qu'elle marche sous cette propagande. Car aujourd'hui, que se passe-t-il en réalité? C'est véritablement un révisionnisme historique. C'est à propos, les chars allemands sont là, les nazis sont de nouveau au pouvoir à Berlin, ils veulent agresser le peuple russe et ça marche, semble-t-il. Alors il y en a qui ne sont pas dans la combine, mais ils ne peuvent plus s'exprimer parce qu'il y a une véritable peur de s'exprimer. Donc ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que le peuple russe, la population suit. Ce qui veut dire que lorsqu'on
a... Alors qu'on s'était bercé d'illusions en disant qu'il va être fragilisé, surtout qu'il essuie des échecs militaires depuis un an, mais pas du tout.
Mais pas du tout. Alors, si vous voulez, moi, tous les experts russes ou les gens de nationalité russe qui viennent sur vos plateaux très souvent nous disent non, c'est effectivement, eh bien, le peuple russe, il est soumis, il est sous la propagande. Ce qui veut dire que c'est lourd de menaces, parce que le jour où, le cas échéant, Vladimir Poutine décide d'aller une échelle supplémentaire dans la menace, eh bien, le peuple russe pourrait suivre.
Et ça, général Vincent Desportes, est-ce que ce n'est pas la dynamique de la guerre qui fait qu'on se radicalise et quand, peu importe, à un moment, on est dans un camp et on est tous derrière le chef, même si la cause, vue de Mars, peut sembler un peu fumante.
C'est la vieille phrase, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, c'est mon pays. C'est vrai que dans la crise, ça se passe toujours comme ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Poutine a raté son pari de départ. C'est-à-dire, il a voulu faire, non pas la guerre, mais une opération militaire spéciale, sans mobiliser son peuple. Rappelez-vous la guerre en Irak, qui est un peu là en 2003. Le président Bush mobilise son peuple avec Powell, qui explique que les États-Unis sont en danger, et puis il va à la guerre. Donc il a un peuple américain qui est derrière lui. La grande difficulté qu'a eu Poutine, c'est de faire la guerre sans mobiliser, et là où il a été fort, c'est que finalement, il a réussi à mobiliser maintenant... alors que la guerre se passe mal. Donc, on voit que la capacité de la Russie à se tenir, à être soudée, est très forte. Et donc, il est en passe de réussir ces deux paris. Le pari, il a mobilisé alors qu'il ne l'avait pas fait. Et ça, c'était un pari que nous croyons tous perdu dès le départ. Et la deuxième chose, son pari, c'est la masse et le temps. Et on voit bien que la masse et le temps sont en train de jouer en sa faveur. C'est pour ça que la situation d'aujourd'hui est une situation tendue, dangereuse, dont personne ne connaît exactement l'issue.
Général Vincent Desportes, cette réhabilitation, parce que je ne sais pas s'il a été déchu, mais ce Staline dont on érige des statues maintenant en Russie, ça raconte quoi de ce pays? C'est qu'il connaît mal son histoire? C'est qu'il se raccroche à la dernière grande victoire dont il peut être fier dans son histoire récente?
Alors d'abord, je crois que ça raconte qu'il n'y a pas eu de Nuremberg en Russie. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas purgé la violence, etc. Au fond, c'est rentré dans la normalité. Il n'y a pas eu d'anormalité. Ensuite, la deuxième histoire, c'est que pour le président Poutine, il n'y a pas opposition. Il y a bien une continuité de l'histoire russe qui est une histoire impériale, que Staline a été un des acteurs importants et que lui continue cette histoire-là. L'histoire de Staline, c'est une histoire d'expansion. J'arrête et je repars en avant, puisqu'il a quand même mis sous sa coupe tous les pays du pacte de Varsovie et tous les pays qui ont été intégrés à la Russie à ce moment-là, à l'URSS à ce moment-là. Et lui, il continue la même histoire. Donc finalement, il se situe dans une continuité historique et non pas dans une rupture. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le peuple russe le soutient. Au fond, il est dans la ligne, il est dans ce que nous sommes.
On connaît cette phrase qu'on attribue à Vladimir Poutine, « Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur et celui qui veut la reconstruire n'a pas de tête ». Sauf que là, visiblement, il veut la reconstruire quelque part, Immontaz. Est-ce que c'est pas ça? Il a oublié la deuxième partie de sa phrase?
Alors, il veut reconstruire le côté impérialiste, le côté dominateur de toute cette région. Et donc, clairement, il a écrit hein, son projet expansionniste, il l'a écrit dans des textes qu'on peut lire noir sur blanc, en commençant par l'Ukraine, mais pas seulement l'Ukraine. Dans sa tête, il faut reconstituer au moins, à minima, peut-être pas toute l'URSS, mais un comme il l'appelle, un voisinage, une sphère qui lui serait acquise à la Russie sous l'influence russe. C'est pour ça d'ailleurs que des pays comme la Pologne, des pays comme les pays baltes, donc la Lituanie, l'Estonie, ils ressentent et ils vivent cette guerre en Ukraine comme une menace existentielle. Voilà. Et les Moldaves, c'est la même chose. Exactement. Si l'Ukraine saute, ben on serait les prochains.
Alors, sauf que l'Ukraine, du coup, conséquence de cette guerre, veut se jeter dans les bras de l'Union européenne, dont elle souhaite faire partie. Aujourd'hui même, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est à Kiev. Et bien sûr, on va parler d'une adhésion alors future hein, de l'Ukraine à l'Union européenne. Sujet et enjeu de cette journée, de cette rencontre, Léo Maron.
Une arrivée à Kiev affichée sur les réseaux sociaux par Ursula von der Leyen. Quatrième visite pour la présidente de la Commission européenne depuis le début du conflit, car aujourd'hui à Kiev, les plus hauts responsables européens se réunissent. Un signal politique clair envoyé à Moscou, la solidarité européenne est indéfectible. Un sommet doit se tenir avec au centre des négociations l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Union. Volodymyr Zelensky rappelle ses motivations.
La motivation, c'est de défendre notre État avant tout. Mais en conséquence, l'Europe tout entière aussi, contre la plus grande force anti-européenne du monde. Les Ukrainiens, sur le champ de bataille, défendent spécifiquement ces valeurs, sur lesquelles l'Europe s'est unie.
Les 27 ont déjà accordé le statut de candidat à l'UE en un temps record, 4 mois à peine après sa demande. Les difficultés arrivent avec la phase suivante, les négociations d'adhésion. L'Ukraine doit donner des garanties, notamment en matière de réforme de la justice et de lutte contre la corruption.
Général Vincent Desportes, on m'annonce à l'instant que les sirènes anti-aériennes sonnent à Kiev. Kiev qui a été l'objet de missiles russes il y a 15 jours. Donc ces sirènes sonnent alors que le sommet va commencer et que donc on rappelle à Kiev, il y a en ce moment, non seulement Ursula von der Leyen, mais de nombreux commissaires européens. C'est l'Union européenne qui est représentée à Kiev. Pourrait-elle être la cible d'un missile russe ?
Elle le peut techniquement à chaque instant. Ça, c'est absolument sûr. Elle peut même l'être de manière massive si l'affaire s'était préparée. Les Russes ont eu tout le temps de préparer cette affaire-là. Mais ce serait évidemment une étape incroyablement importante dans cette affaire-là parce que là, l'Europe et nos populations qui ne se sont pas attaquées, là, elles se sentiraient en guerre. Et je pense que c'est un risque que ne prendra pas le président Poutine. Ça n'est évidemment pas dans son intérêt, mais c'est techniquement possible à chaque seconde.
Rim Montaz, quel est le message que vont adresser aujourd'hui Ursula von der Leyen, qui représente l'Europe, et Volodymyr Zelensky ? Est-ce qu'il y a un message, une image qui va être envoyée à Vladimir Poutine ?
Alors chacun des deux côtés, clairement, veut faire passer des messages. D'un premier côté, Ursula von der Leyen, en allant là-bas, en tenant un sommet de l'Union européenne pour la première fois dans une zone de guerre, c'est pas rien. Elle est là pour réassurer le fait elle est là pour matérialiser et puis rappeler le fait que l'Union européenne soutient l'Ukraine, mais aussi que l'Ukraine est dans un statut de candidat à l'Union européenne et que tout le monde soutient cette candidature. Ça, c'est au premier niveau. Mais au second niveau, du côté européen, ils ont aussi besoin de ménager les attentes des Ukrainiens. Parce que du côté ukrainien, Volodymyr Zelensky, il annonce que l'Ukraine va adhérer et il va devenir membre de l'Union européenne d'ici 2024. Ce qui n'est pas du tout possible d'après tous les spécialistes et d'après l'Union européenne qui dit « mais en fait, il y a tellement d'acquis ». Déjà à mettre en place, il y a beaucoup de choses à régler, la corruption, mais pas seulement. Il faut prendre en compte que l'Ukraine est un énorme pays, c'est un énorme pays agricole. Il faut voir comment intégrer ce pays et son économie, la mettre au niveau des 27 de l'Union européenne. Ce n'est pas du tout donné. Et d'ailleurs, le président français avait dit en mai que ça pourrait prendre une décennie. Donc il y a là un problème où il faut essayer de trouver un moyen de dire aux Ukrainiens, on est à vos côtés, mais en même temps, on ne peut pas bâcler le processus d'adhésion à l'Union européenne.
Patrick Martin-Jeunier, est-ce que certains pays, certaines capitales tiquent un peu à l'idée de, que l'Union européenne s'élargisse à l'Est, avec, vous le disiez à l'instant, c'est énorme l'Ukraine, hein, c'est plus que la superficie de la France, c'est la population de l'Espagne, ce ne serait plus la même Europe, non ?
Manifestement, effectivement, nous sommes aujourd'hui à 27, on voit bien qu'il y a eu un déplacement du curseur politique vers l'Est de l'Europe, et ça ne marche pas toujours. Cela réduit quand même la cohésion politique et géostratégique de l'Europe. Regardez aujourd'hui, on parle de défense européenne qui n'existe absolument pas. Il y a un effort, une coordination militaire, mais quand on voit comment ça se passe avec l'Allemagne, ça ne se passe pas forcément très bien. Et on sait qu'il y a des divergences, par exemple, entre la France et l'Allemagne sur l'adhésion des pays du Balkan. Olaf Scholz, le chancelier, veut une adhésion rapide alors que le président de la République était bien plus timoré sur cette question. Et on voit bien que plus l'Europe s'élargit à l'Est, plus il y a des divergences d'ordre politique, notamment par rapport à la liaison avec les États-Unis. Mais je reviens effectivement à ce qui se disait. Il peut y avoir aussi des divergences sur le rythme d'adhésion de ce pays à l'Union européenne. 2 ans, c'est complètement impossible, irréaliste. C'est le premier ministre ukrainien, M. Chmyhal, qui l'a dit, je veux être dans l'Union européenne dans 2 ans, ce n'est pas possible. Les pays des Balkans d'ailleurs ne serait pas d'accord parce que ça fait plus de 10
ans. Ça fait longtemps qu'ils attendent.
Je ne parle même pas de la Turquie, ça fait 30 ans. La Turquie n'est pas prête de venir dans l'Union européenne, mais on voit bien qu'il y a effectivement des divergences très importantes. Et manifestement aujourd'hui, il faut dire quand même une chose pour l'Europe, c'est qu'elle apporte une aide financière considérable, même supérieure aux États-Unis sur le plan économique, avec une assistance macro-financière cette année de 18 milliards d'euros et 3 milliards viennent d'être débloqués dès maintenant. C'est pour ça effectivement qu'on demande aussi à l'Ukraine de rendre compte sur un certain nombre de choses, on vient de le dire, sur l'indépendance de la justice, sur la corruption. C'est un des pays les plus corrompus qui soit. Donc il y a un
118e au monde, 116 sur 180 selon l'indice Transparency International. C'est-à-dire voilà. Très mal classé. Hein.
Non, mais figurez-vous qu'en plus, il y a 2 jours, on a découvert 150 000 euros dans le domicile personnel de la directrice des services fiscaux de Kiev. Donc ça l'affiche mal quand même. Donc il y a un effort qui est fait, il faut les aider, mais il faudrait être très attentif.
Général Vincent Desportes, c'est vrai. Est-ce que ça peut pas... On voit que Volodymyr Zelensky est très allant pour... il s'est séparé, enfin, il a limogé l'un de ses proches qui trempait dans des affaires de corruption. Est-ce que ça ne peut pas interroger, voire émousser le soutien des Occidentaux s'ils s'aperçoivent que l'Ukraine est corrompue jusqu'à l'os, et elle l'est selon les classements Transparency International? C'est un pays auquel on donne des milliards et à qui on donne des armes dont on pourrait s'interroger sur leur destination finale si on peut acheter les responsables ukrainiens.
Non, mais vous avez raison. Et je crois que ces questionnements-là sont utiles. On voit bien que c'est une guerre qui est conduite aujourd'hui sur les plateaux. C'est l'émotion, c'est la passion et c'est parfois le manque de réflexion. Or, il faut que la raison l'emporte. On voit régulièrement les Ukrainiens ou pseudo-Ukrainiens qui sont sur les plateaux dire en fait, on est déjà dans l'OTAN, on a déjà les armes, etc. Non, il y a des réglementations qui sont la force du monde occidental qui doivent être respectées. Et donc, je trouve que c'est bien que ces questions se posent. Mais à la fois, moi, je suis extrêmement heureux que l'Europe existe un peu. De quoi a-t-on manqué depuis, je ne sais pas combien d'années, on a manqué d'Europe. Moi, je pense...
Vous trouvez qu'on est à la ramasse des Américains dans la conduite de cette guerre en Ukraine ?
Vous êtes gentil de me poser la question parce que vous connaissez la réponse. Et évidemment, et moi, je pense, on peut dire le contraire, mais si l'Europe avait existé comme acteur géopolitique, c'était construite à partir de la chute du mur et disons de 91, il est bien possible que cette guerre n'ait pas eu lieu. Donc, il est temps que l'Europe existe. Moi, je suis absolument attristé de voir la divergence des pays européens aujourd'hui dans la guerre, l'armement. Il n'y a pas de projet européen, il n'y a pas de vision européenne. Quand je veux envoyer des chars, je téléphone à Washington. Quand je veux envoyer des avions... Et donc, il est temps que l'Europe existe. Alors, c'est pas un grand pas, mais c'est un pas. Plus l'Europe existe, plus je pense l'avenir de l'Europe et de l'Ukraine et de la Russie, probablement, sera meilleur.
Alors, vous parlez de la cacophonie européenne. C'est vrai que faut-il livrer des armes à l'Ukraine ? Alors, des chars, oui, on s'est mis d'accord. Mais voilà que l'Ukraine, maintenant, réclame des avions de chasse. Joe Biden a dit non, mais Emmanuel Macron a dit rien n'est exclu. Est-ce qu'il est sage ? Quelle serait la réaction de Vladimir Poutine si la France venait à livrer des Rafales ou des Mirages? Élément de réponse avec ce sujet de Stéphanie Pérez.
Dans le carnet de commandes de l'Ukraine désormais, les avions de chasse occidentaux. Une étape supplémentaire pour fermer l'espace aérien aux forces russes, selon le président Zelensky.
Il faut fournir des avions à l'Ukraine. C'est notre rêve et c'est notre objectif.
Numéro 1 sur la liste des souhaits ukrainiens, les F-16 américains, chasseurs ultramodernes les plus utilisés dans le monde, plus performants que les vieux MiG-29 soviétiques de leur armée. Côté français, ce sont les Mirage 2000 qui répondraient aux besoins ukrainiens. Mais rien n'est acté. Seule certitude, la France veut passer au tour Rafale. En fournissant ces Mirage, elle ne verrait pas ses capacités militaires trop impactées. Restent deux problématiques. La formation des pilotes, longue et complexe, sur ces appareils sophistiqués. Et surtout, après les chars d'assaut, la livraison de ces avions de chasse ne ferait-elle pas des alliés, des acteurs directs du conflit, des co-belligérants ?
Alors, Général Vincent Desportes, votre point de vue sur cette question sensible. Emmanuel Macron parle d'un risque escalatoire.
Bien sûr. Alors, il faut remarquer que quand le président Macron dit « tout est ouvert », il le dit avant que le président Biden ait dit non. C'est intéressant quand même de replacer les choses dans l'ordre chronologique. Ensuite, évidemment, ce qui a été dit est intéressant, c'est qu'on n'a pas le même problème technique en France vis-à-vis des avions que vis-à-vis des chars, et votre correspondante a bien expliqué pourquoi. Donc, techniquement, c'est possible de la part de la France.
Ensuite, de livrer alors des Mirages.
De livrer les Mirages qui vont quitter nos flottes d'avions. C'est possible. Et d'autre part, autant les Charles Leclerc, hélas, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et le monde a eu tort de ne pas en acheter, mais des avions français, il y en a quand même beaucoup ailleurs. Et donc, là, la question des chars ne se pose pas de la même manière que pour les chars. Ensuite, il y a quand même une autre question. Est-ce que les avions sont utiles aujourd'hui ? On peut quand même se poser la question de savoir. On ne voit pas un avion voler dans le...
Comment se fait-il d'ailleurs qu'on ne parle jamais de la guerre des avions cette bataille ?
Parce qu'il n'y en a pas, parce que la réponse est claire. Regardez, les Ukrainiens, et c'est bien, se disent on abat 80%, 75% des drones qui arrivent. Ben, du côté russe, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu de la densité des armes anti-aériennes, on ne peut pratiquement pas faire voler un avion, sauf à le laisser assez loin des lignes.
Et pardonnez-moi, mais du coup, ça ne vous interroge pas sur l'utilité des avions de chasse dans une guerre ?
Mais ça interroge tout le monde, enfin, sauf les Ukrainiens, visiblement. Mais non, ben, évidemment, ça...
Si dès qu'un avion de chasse, il décolle, il se fait abattre comme un pigeon.
Mais ça remet en cause, si vous voulez, tous nos concepts de la guerre moderne. Nous, on pensait que l'action de guerre moderne, c'était blinder les chars, un peu le modèle de la Blitzkrieg, quand même. Bon, et on voit bien que non, là, on a des armées qui combattent de manière un peu séparée. Nous, ça nous interroge, et nos états-majors réfléchissent à ce sujet. Donc, il y a une première question, qu'est-ce qu'on ferait avec des avions ? Ensuite, les avions de chasse, c'est pas tellement des avions de chasse, c'est des avions d'appui au sol dont ils ont besoin. C'est-à-dire...
Quand on fait une offensive, les avions...
Je vais tirer au sol, je vais rajouter du feu au feu. Celui-ci. Qu'est-ce que c'est que l'aviation d'appui, c'est une aviation d'appui, c'est de l'artillerie volante. C'est essentiellement de ça qu'ils ont besoin, mais tout ça doit être couvert effectivement par des avions de chasse pour empêcher la chasse ennemie d'aller mettre au sol les avions qui voleraient pour aller pratiquer cet appui-là. Alors, est-ce que c'est escalatoire ? Bon, le mot est nouveau, donc c'est un néologisme qui demandera à être exploré, mais l'idée, c'est que, dans l'idée de l'OTAN...
La Russie martèle que les Américains et les Européens lui ont déclaré une guerre par procuration, et je cite Vladimir Poutine, « La Russie utilisera tout son potentiel, qui est grand, pour répondre aux livraisons d'armes occidentales. »
Bon, alors, on n'est pas surpris. Donc, ça, il le dit depuis le début. Et à chaque fois qu'on aura des armes livrées, il continuera à le dire. Mais le risque, effectivement, en livrant des avions, c'est que les avions seront équipés de missiles qui pourront faire des incursions et ils pourront aller frapper assez profondément à l'intérieur de la Russie, quitte à être détruits eux-mêmes. Mais enfin, ils pourront le faire. Et donc, effectivement...
On ne peut pas demander aux Ukrainiens, on vous prête des armes, mais interdiction de les utiliser contre le territoire russe.
Si, bien sûr, on peut le demander, mais ça ne sont jamais que des recommandations. Et après, le président Zelensky, quand il les a, il fait ce qu'il veut. Maintenant, il n'a pas intérêt à le faire, parce qu'il a quand même besoin d'avoir des armes, et s'il les utilise n'importe comment, il n'en aura plus. Et donc, je pense qu'il n'a pas intérêt à le faire, mais il y a néanmoins un risque. Je rappelle que la trajectoire normale de la guerre, c'est une trajectoire de montée aux extrêmes, d'escalade, et on voit bien. Et le problème aujourd'hui, c'est le problème du contrôle politique de cette guerre. Cette guerre est conduite sur une logique militaire, ce qui est toujours extrêmement dangereux pour une guerre. On voit bien. Alors, le problème de la co-belligérance que vous avez évoqué, c'est un vieux problème, la co-belligérance, le terme même, lui, c'est pas un néologisme, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il existe. Mais le seul à pouvoir décider si nous sommes co-belligérants, c'est évidemment le président Poutine. Il n'y a pas, le droit international ne définit pas la co-belligérance, mais on voit bien ce que c'est, il faut pas, voilà. Et la question, en fait, c'est la question de l'intolérable. À partir de quand le président Poutine considérera qu'une livraison d'armes est totalement, et unfair, comme diraient les Anglais, est totalement intolérable.
De c'est fameuse lui, ligne rouge, et c'est lui qui les a tracées.
Oui, qui les a pas tracées. Vous savez, la ligne rouge, elle bouge depuis le début. Mais il n'a pas tellement intérêt à la tracer. Parce qu'à partir du moment où il dit « oui, l'OTAN est en guerre contre moi », c'est lui-même qui change totalement la nature de cette guerre. C'est pour ça qu'il recule. Ouais. C'est pour ça, monsieur.
Patrick Martin-Genis, est-ce que quand même, au début, on livrait des mitraillettes, puis maintenant on livre des véhicules blindés, maintenant des chars, demain peut-être des avions de chasse, est-ce qu'on n'est pas tout doucement quand même en train de mettre le doigt dans un engrenage dont on finira par se faire happer? C'est quoi la prochaine étape d'ailleurs? Ce sont des troupes au sol? C'est la bombe atomique?
Non, cela vient d'être dit par le général. Vous savez, il y a une échelle. Hein,
est-ce que c'est notre intérêt, je veux dire, de se laisser happer dans cet engrenage?
On est déjà happé. Vous savez, le fameux escalatoire, entre guillemets, c'est dès le 25 février 2022. Donc au lendemain de la guerre, l'Europe a réagi, les États-Unis ont réagi. Et donc à chaque fois, eh bien, on donne des moyens supplémentaires, des armements supplémentaires. S'agissant des avions, même s'ils ne sont pas livrés, on sait que des équipages ukrainiens sont déjà arrivés au Royaume-Uni pour être entraînés. Donc on voit bien effectivement qu'on est dans un engrenage. On n'est pas pour autant...
Il ne faut pas s'en effrayer quand même. Est-ce que les Français ont envie d'aller mourir pour Kiev?
Non, mais je pense que là, on parlait de la co-belligérance de fait ou en droit, disons plus de fait. Dès lors qu'il n'y a pas un seul soldat français de l'OTAN sur le sol ukrainien, on n'est pas en co-belligérance, mais on est dans un conflit mondialisé. On le sait très bien que l'OTAN est en plein dans cette guerre. Et donc, comme on l'a dit, effectivement, c'est Poutine lui-même qui décidera le jour où la ligne rouge a été franchie. Mais on ne peut pas s'arrêter au milieu.
Pourrait-elle être ces lignes rouges, la Crimée, ou le fait que avion de ou des armes ukrainiennes viennent à frapper le territoire russe, qu'elles ont déjà un peu fait.
Vous savez, il peut y avoir des incidents, même un missile de 150 km, il peut très bien, s'il est tiré dans la zone occupée, il peut très bien arriver à Rostov-sur-le-Don de l'autre côté de la frontière. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des dérives, il peut y avoir des incidents, que des missiles arrivent de l'autre côté russe. Mais si, par exemple, l'OTAN ou la France décidaient d'envoyer des Mirage ou des F-16, et que ces F-16, ces Mirage étaient utilisés pour tenter de libérer la Crimée, là, je pense effectivement que ce serait une ligne rouge très importante. Pourquoi ? Parce que ce serait un avion occidental qui viendrait détruire des cibles en Crimée. Et donc, cela pourrait être considéré comme étant effectivement le dépassement de
cette ligne rouge. Un F-16 américain qui viendrait frapper la Crimée que Poutine considère comme... Et que les habitants, d'ailleurs,
considèrent tout à fait.
Comme russe.
Voilà. Ce serait
ça pourrait être une ligne rouge.
Au territoire russe, une atteinte à la sécurité
nationale. Alors, Rimmanta, sur ces questions assez subtiles, mais ô combien importantes, parce qu'on serait directement impliqué dans ce qu'il faudrait bien appeler la Troisième Guerre mondiale, hein, si on y prend garde.
Mais je pense qu'il faut un peu, repenser comment on est en train de parler de cette question. D'un côté, de notre côté, il faut qu'on réfléchisse à quelles sont les lignes rouges de Poutine et évidemment ne pas essayer de trop aller le chercher. Mais de l'autre côté, il faut se rappeler que Poutine doit aussi prendre en compte quelles sont les lignes rouges des Européens et des États-Unis. Il y a trois pays qui ont l'arme nucléaire de ce côté, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc lui, la Russie, a l'arme nucléaire et a un arsenal important. Mais de l'autre côté aussi, il y a ce qu'on appelle la dissuasion. Donc Poutine, ce n'est pas une chose que lui prend à la légère. De notre côté, il y a une vraie dissuasion qui marche jusqu'à maintenant. Donc ça, il faut toujours le rappeler aux gens. Il ne faut pas aussi faire peur aux gens.
L'OTAN est un ennemi coriace, quoi.
L'OTAN, oui, est un ennemi coriace. Ouais. Les pays européens, les Français en particulier, la France en particulier, est aussi un pays coriace dont la dissuasion fonctionne, qui est fort. Donc, il faut aussi garder ça en tête. Ça, c'est un. Deux, la question de est-ce que si les Ukrainiens utilisent un F-16 américain pour bombarder la Russie, comme le disait le général, ce n'est vraiment pas dans l'intérêt de Zelensky de franchir cette ligne.
Parce que là, il sait qu'immédiatement, nous, on cesse
Tout s'arrête.
Tout s'arrête.
Et en réalité, il est totalement dépendant sur les approvisionnements du côté européen et américain. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, vous savez, ça fait un an que Poutine fait la guerre à l'Ukraine. Donc, c'est lui qui est dans l'escalade. C'est lui qui a créé l'escalade, qui a créé la guerre et qui continue de faire l'escalade parce qu'il ne s'arrête pas. Ça, c'est d'un côté l'escalade et de son côté. L'Union européenne, les Européens, les Américains sont dans un soutien défensif à l'Ukraine qui défend son territoire. Ça, c'est un. Deux, ça fait un an qu'on fournit des armes. Aujourd'hui, d'après le Wall Street Journal, les États-Unis vont annoncer l'envoi de missiles à plus longue portée. Donc là, on monte d'un cran. Mais
avec le risque que ces missiles soient orientés vers la Russie. Alors vous disiez non.
Il y a toujours cette condition. Les Américains mettent toujours cette condition. Il ne faut pas aller taper le territoire russe parce que là, ça ne serait plus défensif. Donc tout ça se tient. Les F-16 ne vont pas nécessairement changer la donne par rapport à l'envoi d'un Léopard, par rapport à l'envoi de HIMAR, donc ces missiles de longue portée, par rapport à l'envoi de canons César, qui sont tous des armes très potentes.
Général Vincent Desportes, est-ce que quand même on a l'impression qu'il y a deux lignes vis-à-vis de ce conflit en Russie? Il y a la ligne qu'on vient de décrire, qui est assez française, allemande, etc. Mais on a l'impression qu'il y a, beaucoup plus de va-t-en-guerre, notamment en Pologne, qui, ils ont envie ils ont des F-16, les Polonais, ils ont envie de les donner aux Ukrainiens. Et on en voit bien que là-bas, il y a une idée de donner une raclée aux Russes pour que ça leur passe l'envie de refaire la guerre pendant des décennies. Et c'est idem chez les pays baltes. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque d'escalade que la partie la plus va-t-en-guerre de l'OTAN, à savoir les Polonais et les pays baltes, ne nous entraîne dans un conflit qui nous échapperait avec le soutien des Ukrainiens d'ailleurs?
Il n'y a pas un risque d'escalade. C'est fait. Si on est toujours quelque part en réponse, les Allemands, les Français, en réponse à des demandes qui sont toujours plus fortes de la part de l'Ukraine et qui sont relayées par ce que j'appelle globalement les pays du front. Pays du front que nous comprenons tous parfaitement. Ça a été dit. Ils ont été attaqués.
Les Polonais, les Baltes.
Les Polonais, les Baltes et puis les autres pays qui s'appellent aussi la Tchéquie, qui s'appelle tous ces pays-là, qui sentent cette menace-là. Et eux, on sait bien que la grande difficulté pour l'Europe de la défense, c'est que ces pays-là ont toujours vu l'Est et nous, on voyait l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on a eu toujours cette difficulté-là. Eux, c'est leur ennemi. Et je ne vais pas dire, je ne voudrais pas choquer, mais cette guerre, quelque part, là, elle fait leur affaire parce que tous les jours qui passent, leur ennemi est petit à petit détruit, ce qui est le même cas pour les Américains dans un des axes stratégiques et l'affaiblissement de la Russie. Donc, pour les pays du front, cette proxy war, finalement, elle est tout à fait dans leur intérêt stratégique. Nous, on a la chance d'être derrière, parce que c'est une chance quand même, et de pouvoir prendre un peu d'auteur. Et le grand mal que fait cette guerre à l'Europe, c'est que, certes, elle raffermit chacun des pays, mais elle divise l'Europe sur sa perception du monde, sur sa perception de cette guerre. Le problème de cette guerre, c'est, vous disiez à juste titre, l'escalade, c'est les Russes. C'est-à-dire que dans l'escalade, il y a toujours un qui devant l'autre. Mais l'escalade, elle s'arrêterait si l'autre ne continuait pas. Et le phénomène de la guerre, c'est que cet engrenage, il est évidemment
des deux côtés. Mais comment est-ce que les Ukrainiens...
Je vais continuer. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début de la guerre, quand vous y regardez bien, la logique de cette guerre, elle est purement militaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de contrôle politique. Qu'est-ce qu'il faudrait ? On est toujours en arrière derrière les Russes. On est en réponse. Pourquoi ? Parce que nous sommes incapables, nous, Européens, et nous, Occident, c'est-à-dire quand vous rajoutez les États-Unis, d'avoir un projet et donc d'avoir une direction politique. Nous n'avons pas de fixer nous-mêmes de limite à ce qu'on veut, à ce que peut produire cette guerre. Nous n'avons pas de projet et donc nous sommes amenés pas à pas, comme dans la majorité des guerres, dans ce phénomène où le phénomène militaire entraîne le politique, ce qui est toujours dangereux. Et il faut donc que le politique, à un moment donné, arrive à reprendre la main, à se donner un objectif, lui-même à fixer des limites et à conduire la guerre en fonction de ce projet. Pour l'instant, ça n'est pas comme ça. Pour l'instant, on est entraîné dans un engrenage que le politique ne maîtrise pas.
Oui, d'un mot.
Oui, d'un mot rapide. En réalité, la limite a été fixée. C'est le retrait de la Russie du territoire souverain ukrainien. Parce qu'en fait, si on permet à la Russie d'occuper un pays, de violer le droit international, tout l'ordre international qui a fait que l'Europe, aujourd'hui, est aussi dominante et aussi riche, s'effondre. C'est ça l'enjeu pour les Européens. Et c'est ça la limite politique qui a été fixée.
Mmh. Alors, sur le terrain, cette guerre...
Ça, c'est un projet négatif. La stratégie, elle doit avoir un projet positif. Ce projet positif, moi, je ne le vois pas.
Alors, sur le terrain, cette guerre fait en tous les cas des dizaines de milliers de morts et encore plus de blessés. Côté ukrainien, vous allez le voir, les soldats, une fois rétablis, n'ont qu'une seule envie, retourner au combat, c'est-à-dire la détermination du peuple qui se bat pour son pays. Vous voyez ce reportage, c'est près de la ville de Soledad, de Maryse Burgot, Stéphane Guillemot et Ludovic Lavieille.
Ce soldat est entre la vie et la mort. Grièvement blessé ce matin dans les environs de Soledad. Dans la même ambulance, un autre combattant touché lors d'un échange de tirs.
Tenez-le bien. Aidez-le.
J'ai reçu un tir de mitrailleuse ou de fusil d'assaut. Moi, je suis armé d'un lance-grenade et l'ennemi redoute les soldats comme moi. Il nous cible en priorité.
Pas une minute à perdre pour ces soignants débordés. Le soldat, dont la vie ne tient qu'à un fil, est installé en salle de scanner. Les radios sont alarmantes. Ses médecins sont très tendus. Ce chirurgien est devenu en un an un spécialiste de la gestion des blessures de guerre sur les mains de ses patients l'heure à laquelle ils ont été touchés. Il a vu des dizaines de soldats tués ou blessés parce qu'ils combattent avec des vieux tanks de l'époque soviétique. La livraison à venir de chars modernes par les alliés de l'Ukraine est pour lui aussi un immense soulagement.
J'ai un terrible exemple. On a pris en charge un jeune tankiste avec tout le visage brûlé. Son char a été touché par une frappe et le réservoir d'huile a explosé. L'huile a aspergé toute sa tête. Je sais que s'il avait été dans un char moderne, au blindage plus résistant, il ne serait pas dans cet état.
Dans les salles de soins, les blessés se succèdent, parfois jusqu'à 80 par jour. Celui-ci attend son tour, seul dans ce couloir. Sa famille n'a pas encore été prévenue.
Je n'ai plus d'émotion, je crois. Je suis blessé, c'est tout. Ça devrait aller. J'attends.
Ce jeune homme de 27 ans, blessé au bras, dit n'avoir aucun état d'âme.
Dès que je suis guéri, je retourne au front. Je n'ai pas honte de tuer nos ennemis.
Beaucoup de souffrance, mais un personnel soignant dévoué, comme au premier jour de cette guerre. Il suffit de passer quelques heures dans ces hôpitaux proches des lignes de front pour comprendre combien les pertes humaines sont lourdes, même si les autorités ukrainiennes, comme les Russes d'ailleurs, ne donnent aucun bilan fiable sur le nombre de morts et de blessés lors des combats.
Patrick Martin-Genier, quand on voit ce reportage et quand on voit la détestation des Ukrainiens contre les Russes, à l'endroit des Russes, on se dit, mais est-ce qu'ils ne l'ont pas déjà perdu, cette guerre, les Russes? Comment veulent-ils maintenant prétendre avoir une influence dans un pays où ils sont détestés, et on se dit, sur plusieurs générations?
Oui, je crois qu'il y a une capacité de résistance extraordinaire, une force de l'armée, une force de la population. Et on voit bien aujourd'hui, vous l'avez dit, que cette guerre est d'ores et déjà perdue. C'était une opération spéciale qui devait se dérouler entre 3 et 5 jours à Kiev. Ils devaient renverser Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, ça va faire un an que ça dure. Ils n'ont toujours pas conquis le terrain qu'ils voulaient prendre. Ils n'ont pas fait chuter le régime de Kiev. On voit bien qu'ils ont, de façon artificielle, annexé unilatéralement un certain nombre de républiques. Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk, etc. Et ça ne marche toujours pas. Les lignes de front sont plus ou moins figées. Ils avancent, ils reculent. On ne sait pas qui avance ou qui conquiert un terrain, etc. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une véritable résistance et on voit bien que cette capacité de repartir au front fait qu'en réalité, l'Ukraine ne sera jamais vaincue, même occupée. Et donc c'est impossible. On est dans un système à l'Afghanistan ou au Vietnam où les Américains finalement avaient perdu,
reculé, là,
etc. Donc c'est fini. Quand il y a la population fait bloc avec cette capacité de résistance, effectivement, eh bien, les Russes ne pourront jamais gagner en Ukraine, avec une petite réserve, parce qu'on sait qu'à l'occasion du 24 février 2023, ils vont tenter encore de remobiliser et d'envoyer encore beaucoup plus d'hommes sur le front.
Alors ça, Général Vincent Desportes, c'est ce qu'il se dit, hein, que les Russes préparent une grande offensive, et les Ukrainiens, d'ailleurs, disent ils aiment bien les symboles, les Russes, ils nous préparent peut-être quelque chose autour du 24 février. Et puis maintenant, ils se sont renforcés, non, quand même. Il y a eu un appel à la mobilisation.
Vous avez raison, vous avez raison. Alors, le 24 février, bon, c'est facile de dire ça, moi, j'en suis pas sûr. Autour, peut-être, j'en sais rien. Mais ils le feront quand ça aura du sens. Parce qu'ils n'ont plus qu'une chance. Ils vont le faire une fois. Et si c'est mort, c'est mort. Mmh. Et donc, je crois quand même que les militaires, enfin, les généraux russes vont faire extrêmement attention de ne pas se laisser attirer par une date. Ils ont une opportunité de faire quelque chose. Ça passe ou ça casse. Vous avez raison, bien sûr. Mais la difficulté, c'est que maintenant, la logique, elle n'est plus dans la logique de gagner la guerre, elle est presque dans une logique de vengeance de la part des Russes. Et la logique de Poutine, il faut qu'il efface son échec, parce que lui compte rester au pouvoir. On est aussi dans la logique du parieur, qui est bien connue des militaires. Plus j'ai de morts, plus je vais rajouter. C'était la logique de 14, de la Somme, du chemin des dames, bien connue. J'ai eu des morts, j'en rajoute.
Et j'ai plus de réserves que toi. Ah ben
c'est très important.
Le champ de bataille.
Ça, c'est très important. Les Russes jouent sur leur profondeur stratégique, qui a deux dimensions essentielles. Un, la profondeur du terrain, évidemment, 11 fuseaux horaires, et puis la profondeur en termes de population, puisque leur population est plus de trois fois supérieure. Et c'est exactement à chaque fois le pari des Allemands contre la France dans leur guerre, dans les deux guerres mondiales. On est, dans la première fois, ils sont 60 contre 35. Ils disent, forcément, on va finir par gagner, ce qui s'est avéré faux parce que les Américains sont venus. Et dans la deuxième, ils sont 80 contre toujours à peu près 35. Et là, ils sont sûrs de gagner. Et ils jouent ça, si vous voulez. Et dans les guerres de masse, la masse finit toujours par jouer. C'est pour ça que Zelensky a parfaitement besoin de la profondeur stratégique que lui apporte l'Occident. Donc il doit faire très attention à la façon dont il traite l'Occident, dont il respecte ou pas les consignes qui lui sont données. C'est extrêmement important pour lui.
Rim Montaz, la vérité, c'est ce que disait Patrick Martin-Jeunier, c'est qu'il ne l'avait pas prévu, cette guerre Poutine. Il pensait arriver en trois jours, faire un coup d'État et avoir un gouvernement à sa botte à Kiev. Sauf que maintenant qu'il a mis lui aussi le doigt dans l'engrenage, il ne peut pas reculer parce que derrière, il perdrait son pouvoir s'il part en disant « j'ai perdu ». Il perd le pouvoir à Moscou.
Alors ça, c'est clair. Et de l'autre côté, c'est très frappant de voir qu'une nation dont il a nié le fait qu'elle existe, aujourd'hui, elle est soudée. Quand on écoute, on regarde ce reportage de Maryse Burgot, on écoute ces soldats qui sont blessés, qui sont fatigués, on écoute ce personnel soignant, ils sont tous toujours encore très motivés, ils ne sont pas abattus, ils ont le bon moral et ils croient en leur nation, ils défendent leur territoire, ils défendent leur pays. D'une certaine manière, Poutine a renforcé la nation ukrainienne. Et ça, comme vous le disiez au début, ça va être très difficile pour lui de gagner. Il pourrait peut-être gagner sur certaines parties du territoire, sur le côté militaire, mais clairement, il ne pourra plus jamais avoir la même influence chez les gens, dans leur cœur, dans leur âme, chez les Ukrainiens, qu'il aurait pu avoir peut-être s'il n'avait pas lancé cette guerre.
Il a perdu la bataille des cœurs. Oui. Voilà. Patrick Martin-Jeunier.
Je crois que c'est l'erreur stratégique de Vladimir Poutine, mais parce que son entourage n'osait pas lui dire, il a cru que parce qu'une bonne partie de la population ukrainienne était russophone, ils étaient pro-russes et pour l'intervention. Ce qui n'a pas été le cas. Ils n'ont pas été accueillis à bras ouverts. On peut être russophone, mais on peut être patriote ukrainien.
Et ça a été là.
Voilà, c'était là l'erreur stratégique, en effet, de Vladimir Poutine.
Alors, on a parlé des avions de chasse qui sont étrangement absents dans le ciel ukrainien. En revanche, il y a une arme qui est la vedette, j'allais dire, entre guillemets, de ce conflit, c'est le drone. Hein. Le drone qui se révèle être une arme stratégique et que les deux camps ont appris à domestiquer. Sujet de Sophie Piard.
Un immeuble touché par un drone kamikaze chargé d'explosifs. Un des nombreux appareils envoyés ces dernières semaines par la Russie pour affaiblir Kiev. Les drones prennent une place déterminante dans le conflit et terrorisent la population.
À 6h30, le drone est arrivé de là. Le grondement était comme celui d'une mobylette. C'était le même son. Il est tombé derrière les maisons. Puis il y a eu un bruit énorme, une explosion.
La Russie utilise des drones iraniens. Sa cible, les infrastructures énergétiques, mais aussi les immeubles d'habitation. Les drones, l'armée ukrainienne les maîtrise également. Plus de 2000 hommes ont été formés à leur pilotage depuis le début de la guerre. Les drones peuvent aussi voler sur des centaines de kilomètres, larguer des explosifs, et ils coûtent bien moins cher que des avions. Peu à peu, les Ukrainiens perfectionnent leur propre modèle.
Nous avons beaucoup d'équipes et d'ingénieurs qui ont commencé à les fabriquer dans les garages, à la main, et même à genoux. Mais maintenant, après des mois de travail, ils ont vraiment atteint un niveau de conception certifié qui garantit la sécurité des opérateurs.
Jamais les drones n'avaient été utilisés comme en Ukraine, un terrain de guerre où s'expérimentent les armes de demain.
Général Vincent Desportes, c'est incroyable parce que les drones, pour beaucoup, c'était des jouets qu'on offrait aux enfants à Noël. Et ça s'est révélé être de redoutables armes de guerre. Je ne sais pas si la France, d'ailleurs l'armée française, en dispose et si elle tire des enseignements de cette guerre.
La réponse à cette question, c'est oui. Mais les drones ne sont pas apparus là. Le premier conflit dans lequel c'est apparu majeur, c'est le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en 2020, où la supériorité azerbaïdjanaise dans les drones a été pour bonne part dans le succès. Et donc, chacun en a tiré des leçons. Je rappelle que l'Azerbaïdjan est allié des Turcs et que les Ukrainiens utilisent eux-mêmes des drones, parce qu'ils utilisent toujours, je pense quand même, des drones qui leur étaient fournis par la Turquie. Il est clair que le drone est devenu l'arme de demain, d'abord parce qu'il n'y a pas d'humain à l'intérieur, c'est un drone. Et que ce qui fait le coût des armements, c'est en particulier toute la fiabilité qu'on doit installer. Et quand vous mettez un homme dans un armement, ça décuple, ça quintuple, ça multiplie par je ne sais pas combien le prix. Donc là, ça délivre la même létalité, si vous permettez l'expression, pour un coût très inférieur. Du coup, au lieu d'avoir un avion, vous pouvez avoir 50 drones. Et donc, effectivement, vous submergez. C'est exactement ce que font les Russes. Ils submergent. Alors, oui, l'armée française, évidemment, s'en occupe. Oui aussi, l'armée française avait raté la marche du drone pour des raisons majoritairement industrielles. Manque d'accord entre les industriels pour arriver.
Parce que pourtant, on a une filière aéronautique.
Oui, mais il y a eu absence de choix.
Fantastique.
Exactement. Mais le gouvernement a mal su choisir les gouvernements successifs entre Dassault et Airbus. En gros, c'était ça l'histoire. Bon, maintenant, on a compris que ces histoires-là, ces chamailleries, c'est terminé et qu'il faut le faire. Donc, nous sommes derrière. La DGA, la Délégation Générale pour l'Armement, est derrière cette affaire-là. Ce qu'a dit le président Macron à Toulon il y a quelques jours quand il présentait la nouvelle loi de programmation militaire, c'est qu'un effort extrêmement important, allait être fait dans les drones qui seront incontournables, évidemment, dans les conflits de demain, que ce soit des drones de renseignement, des drones de frappe, des drones, il y en aura partout.
Rime Montade, est-ce que dans l'état-major, l'armée, on tire des enseignements au vu de cette guerre, en se disant, en fait, nous, notre armée, elle était peut-être un peu trop expéditionnaire, c'était une armée qui était vouée à aller, au Sahel ou en Afghanistan, et on avait oublié qu'on avait un territoire peut-être à défendre.
Alors, tous les états-majors sont en train de regarder ce qui se passe en Ukraine, pas seulement pour comprendre comment les Russes sont en train de gérer leur guerre, qu'est-ce qu'ils ont raté, parce qu'on a commencé cette guerre en pensant que l'armée russe est bien plus performante qu'elle ne l'a été.
C'est vrai qu'on proposait l'asile au tout début à Zelensky, qui a dit non, je reste.
Exactement.
Mais il est fou.
Et de l'autre côté, l'armée ukrainienne est en train de montrer une agilité qui impressionne dans les états-majors. Ils sont en train de montrer aussi une inventivité qui est en train d'impressionner, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'improviser d'une certaine manière une interopérabilité, c'est-à-dire ils mettent en contact, ils font communiquer entre eux des systèmes qui n'étaient pas conçus pour communiquer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé avec des armements plutôt soviétiques, ils ont maintenant été fournis avec des armements occidentaux, et tout ça doit communiquer ensemble, et ils sont très forts dans tout ce qui est intelligence artificielle. Donc ils ont des programmateurs qui sont en train de faire des programmes sur des tablettes pour faire fonctionner et parler ensemble tous ces systèmes. Et dans tous les états-majors, pas seulement en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, on regarde ça de très près. On regarde aussi une autre chose de très près. On parle de guerre de proxy. On voit qu'il y a aussi un affrontement entre les drones turcs et les drones iraniens. du côté russe. Et comment est-ce que ces pays, surtout l'Iran qui a des sanctions, arrivent quand même à produire des drones qui sont performants en utilisant des composantes de machines qu'on utilise tous les jours, des machines à laver, des micro-ondes, etc.
Mais les drones, c'est une arme de terreur. C'est pas ça qui donnera un avantage compétitif et définitif.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve lundi pour un nouvel Info C'est Clair qui, je le rappelle, est disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes audio. Bon week-end et à lundi.